Je suis avec Jean-Luc Marcastel et Jean-Mathias Xavier, respectivement donc auteur et illustrateur du roman Louis le Galou. Bonjour.
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 Comment est née l'idée ?
L'idée est venue du fait que je suis un amateur de fantasy, on va dire, un gros lecteur de fantasy et de science-fiction, enfin de tous les univers imaginaires. Et j'aime beaucoup Tolkien, et ainsi que, en général, toute cette littérature. Mais il y a quelque chose qui me désolait un petit peu, c'est de voir que justement depuis Tolkien, qui lui a utilisé les contes et légendes et les mythes et la mythologie anglo-saxonne ou nordique, on se contente bien souvent de reprendre un petit peu tout le décorum de Tolkien et de le retransposer une énième fois, après ceux qui ont copié Tolkien et ceux qui ont copié Tolkien et ainsi de suite. On décline un petit peu toujours les mêmes choses, en fait, dans l'imaginaire, voilà, dans la fantasy. Et je me disais qu'en France, justement, c'est quand même dommage, car on a plein de légendes aussi, des lieux qui sont extraordinaires, qui pouvaient être utilisés pour faire une histoire. Et donc ma démarche a été non pas de copier Tolkien, mais de prendre sa démarche, c'est-à-dire de prendre tous les contes et légendes que je connaissais, de les malaxer et de créer un univers avec ça cohérent. Donc ce qui a donné Louis de Galou.
Histoire de France transformée pour l'occasion ?
Histoire de France transformée, puisqu'on se situe dans une France parallèle qui a été défigurée par un cataclysme, donc qui aurait été frappée par ce que les gens de ce monde-là ont appelé le point de Satan, qui serait venu de l'espace, du ciel, et qui aurait fracturé la France en deux parties et créé une espèce de grande brèche, d'où montrer une lueur bleutée, mauvaise, qui changerait les bêtes et les hommes qui s'en approchent de terrible manière. Donc créerait des mâles-bestes, des bêtes difformes, énormes, qui viendraient attaquer un petit peu, qui viendraient se répandre dans le territoire. Là, l'histoire se situe plutôt au sud de la grande brèche, dans un royaume qui s'est reconstitué au sud de la grande brèche, et donc les mâles-bestes s'y répandraient et viendraient porter la terreur, jusqu'au moment où les gens commencent à les chasser et à recréer un royaume. De temps en temps, il y en a encore qui franchissent ces montagnes et qui viennent, et donc c'était là que démarre notre histoire un petit peu.
Au niveau de l'époque, vous situez ça?
Alors l'époque du récit se situerait, je dirais, aux alentours du 12e siècle, on va dire, puisque le cataclysme a lieu en 999 et l'histoire se situerait à peu près 200 ans plus tard, on va dire.
Pour toutes les créatures, est-ce que vous aviez déjà une idée de collaboration avec Jean-Mathias Xavier?
Ben, pas encore au moment où j'ai écrit l'île, puisque j'ai d'abord écrit l'île dans une première édition qui était une édition régionale, et Jean-Mathias l'a découvert après. Mais par contre, maintenant, on se renvoie bien la balle au niveau des bêtes et des illustrations. C'est-à-dire que moi, j'ai écrit le livre, et Jean-Mathias après est tombé dedans, et les cinq avaient déjà été écrits, et il a adoré le livre et les créatures. Il me disait, voilà, il y a plein, attends, regarde celle-là. Et effectivement, quand lui, il est dessiné, et quand il les dessine, ben, je retrouve très exactement celle que j'ai décrite. Donc, il y a vraiment une osmose qui se produit entre tous les deux, puisque, voilà, quand il dessine les bêtes, j'ai vraiment l'impression de voir l'image que j'avais dans la tête.
Et donc, vous avez découvert le texte bien après, du coup, l'écriture?
En fait, j'ai découvert le roman grâce à une amie qui m'en a parlé dans le TGV, et c'était dans sa première édition. Et la première édition était une édition régionale. Elle m'a dit, écoute, c'est génial ce roman, il faudrait que tu le lises, parce que c'est vraiment, ça a donné plein d'idées rigolotes et tout pour faire des illustrations et des trucs sympas, tu vas voir. Et donc, en lisant le texte, je lui ai dit, écoute, ça serait quand même vachement bien d'essayer de contacter l'auteur, parce que c'est une édition régionale, et pourquoi pas voir s'il n'y a pas décidé quelque chose pour l'édition nationale, parce que là, moi, je suis en train de le lire, et j'ai la main qui me démange pour pouvoir dessiner plein de dessins, donc je suis en train d'en faire, donc on va voir qu'est-ce qu'il en est. Et puis, elle a contacté donc Jean-Luc, et elle lui a dit, ça vous intéresserait quand même de voir les dessins que Jean-Mathias fait, parce qu'il travaille dans le dessin animé et tout, pourquoi pas, ça pourrait être rigolo. Jean-Luc a fait, ouais, j'aimerais bien. Donc, je lui ai envoyé les dessins. Et tout de suite, ça correspondait à ce qu'il avait dans la tête. C'est-à-dire que même la roussotte, c'était rigolo parce que un jour, je lui ai envoyé le dessin de la roussotte, par exemple, qui est le personnage féminin de l'histoire. Et il m'a dit, c'est fou, t'as fait le portrait de ma femme. C'est quand elle était plus jeune. Donc, parce que quand il l'a décrit, il s'est un petit peu inspiré de sa femme quand elle avait 16-17 ans. Et du coup, il m'a dit, mais c'est fou. Il m'a envoyé la photo de sa femme. J'ai dit, ah ouais, quand même, effectivement, c'est quand même assez marrant de voir. C'est un peu comme si je voyais dans sa. Que j'arrivais à vraiment. C'est une osmose, on va dire, mentale. Hein. C'est pas pour autant que je suis un mec mystique, ni lui, mais faut se rendre à l'évidence que vraiment il y a une bonne en fait relation. Et du coup, c'est vrai que à chaque fois que je faisais les dessins, même après, à un moment c'était marrant parce que je mettais pas les prénoms des personnages. Je lui disais, il me disait, ah tiens, t'as dessiné Mathieu, ah là t'as dessiné Thierry, là t'as fait le forgeron. Donc c'était assez rigolo, quoi. Et donc c'est comme ça en fait que ça s'est vraiment lié, le fait que j'ai découvert le roman dans sa première édition et que du coup, On a trouvé un éditeur national et c'est aujourd'hui on en est là, quoi.
Cet univers de fantasy, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur?
En fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai beaucoup de mal dans les romans d'heroic fantasy, parce que souvent c'est des noms, en fait, c'est des lieux qui n'existent pas et j'ai besoin de pouvoir me repérer, ou alors il faut vraiment que le romancier ait vraiment bien décrit son univers. Là, ce qui est intéressant, c'est que Jean-Luc a créé un univers d'Heroic Fantasy, mais qui se passe dans des lieux qu'on connaît. C'est-à-dire qu'au Rocamadour, quand il parle de Montpellier, qui est pris par les Galous Noirs pour aller mater la rébellion, ben, bah, c'est vrai que d'un seul coup, on se dit, ah, à Montpellier, ok, d'accord, les gens, ils se sont fait massacrer. Et du coup, on arrive facilement à pouvoir se transposer dans l'univers. Et c'est ce qui est d'autant plus fort parce que d'un seul coup, on est vraiment, bon, enfin, pour moi, je pouvais vraiment me promener dans son univers et vraiment découvrir tout ce qui existait, quoi. Ça, c'était, et c'est pour ça que, par rapport à ce que vous disiez, si c'est quelque chose qui me tient à cœur, oui, ça me tient à cœur parce que les personnages, je me les suis complètement accaparé parce qu'ils sont en même temps très forts au niveau des sentiments, au niveau des lieux. Tout est coloré, fort d'image. J'aime bien dire souvent que c'est un peu un cinéma mental. Donc forcément, quoi, je m'y retrouve complètement, quoi, dedans, quoi. C'est-à-dire que j'oublie derrière moi ce que j'étais en train de faire ou quoi que ce soit, et puis je me lance dans le roman et je peux le relire et le relire et le relire, j'ai aucun problème, quoi. Et c'est pas un côté genre fan, j'adore. C'est vraiment que je suis plongé dedans et. Et voilà, quoi, l'alchimie se fait à ce moment-là, l'incroyable se produit, puis après je peux revenir avec des dessins et les montrer aux gens. Regardez, c'était comme ça. Un peu comme les explorateurs orientaux qui partaient très loin avant et ramenaient les éléphants, les rhinocéros, mais moi je ramène les malbestes et les personnages, quoi.
Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, dessiner un monstre, enfin une créature ou un humain?
Bah, en fait, c'est les deux en même temps, parce que quand Jean-Luc, par exemple, parle du basilic qui va se retrouver dans le tome 4, le monstre est tellement incroyable que, en fait, c'est un peu comme les illustrations, elles prennent des tickets. Au moment où je suis en train de le lire, d'un seul coup, j'ai le basilic qui est là et je le vois. Donc, imaginez que je le vois comme je vous vois ou comme je vois n'importe qui. Donc, le monstre est devant moi, sauf que moi, bah voilà, quoi, je peux le dessiner, je peux tourner autour et je peux le faire sous plusieurs angles, il n'y a pas de problème. C'est assez un peu spécial, hein, quand même, comme situation. Mais je le conçois et donc, je le dessine et je peux le dessiner en mouvement, je peux le dessiner en combat, je peux le. Donc, c'est assez rigolo. Et quand c'est des personnages, quand Jean-Luc décrit par exemple le personnage de François Le Breton qui est le forgeron qui est dans le tome 2, il en parle comme d'un personnage presque comme un dieu antique en train de marteler des belles épées qu'il est en train de créer et tout. Et donc la façon dont il en parle, bah, forcément d'un seul coup on a envie de le dessiner son personnage. Enfin, moi j'ai envie de le dessiner, j'ai envie de lui donner, j'ai envie de ramener cette image, j'ai envie de l'immortaliser. Puis après quand je lui donne l'illustration, il dit ah ouais là c'est vraiment ça, quoi, c'est super, c'est très bien, il n'y a pas de problème, c'est vraiment comme ça, c'est comme ça que je le voyais. Et ce qui est drôle, c'est que les autres lecteurs, lorsque ils voient les personnages, ils me disent ah tiens c'est marrant, c'est comme ça que je voyais. Ah ouais, c'est vraiment comme ça que je voyais Dame Sania. Tiens c'est marrant, c'est comme ça que je voyais Thierry de Castelrock ou Mathieu. Donc qui sont des personnages qui existent, ou même le Ciblaire qui est un personnage d'une ancienne race de reptiles qui était là avant les Galous. Quand ils voient le Ciblaire, ils me disent ah ouais il est vraiment moche, hein, mais c'est vraiment comme ça, quoi, qu'il était. C'est comme ça qu'on l'imagine. Donc ce qui est assez marrant, c'est que il y a pas de préférence. En fait c'est même, je dois dire que j'ai pas de préférence parce que c'est les dessins qui me viennent à moi. Donc ils viennent, donc je les dessine. Donc ils prennent un ticket, quoi. C'est ticket numéro 2, alors toi le Ciblaire, tu vas attendre un instant, t'as le ticket 53, donc avant j'en ai 50 à voir dessiner. Donc voilà, quoi.
Par rapport à la réalité historique française, est-ce que vous gardez certains points communs et qu'est-ce que vous vous mettez vous comme limite pour pas partir trop dans l'imaginaire?
Je me suis pas mis de limite. Disons que je suis parti d'une situation de base qui était dans, on va dire, la France au 10e siècle, enfin, environ, hein. Et puis à partir de là, je me suis dit, voilà, s'il y avait un cataclysme, qu'est-ce qui se passerait? En fait, mon intérêt était de réussir à lier toutes les contes et les légendes un petit peu dont on parlait dans un tout cohérent et un univers cohérent. Pour ça, pour introduire des créatures un peu fantastiques, etc., je me suis servi de cette idée de grande brèche. Et alors, pourquoi avoir cassé la France en deux, me demandent certaines personnes. Eh bien, je dirais que c'est pour, entre autres, je voulais un petit peu me couper de tout ce qui était le folklore, entre autres celtique ou breton, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui a déjà été très utilisé et que les Bretons, justement, très bien sûr, remettent à l'honneur. Et moi, je voulais plus m'inspirer des contes et des légendes de tout le sud de la France, qui sont beaucoup moins connus. Et que moi je connais bien parce que je suis originaire de par là-bas. Et il y avait des lieux comme ça que je voulais être. Donc je me suis dit, voilà, on va casser la France en deux parties. Après, par contre, non, mon histoire, l'histoire bifurque à partir du moment du cataclysme, puisque évidemment la France, enfin le royaume qui se reconstruit au sud de la Grande Brèche, ils doivent se reconstruire. Il y a deux France donc qui vont se mettre en place. La deuxième, celle du Nord pour l'instant, je l'ai laissée dans l'ombre, sera l'objet d'une nouvelle série, beaucoup plus tard. Voilà un petit peu pour l'univers. Donc après, l'histoire évolue différemment, bien entendu.
5 volumes, ouais, un petit peu de début.
Donc alors l'histoire, donc grosso modo, dans cet univers où il y a eu un cataclysme, où les gens se sont repliés, en fait voilà, ce qu'ils ont appelé le point de Satan, on a dit, a frappé la France, a créé cette grande brèche, il a fait sombre et noir pendant 100 ans, on va dire. Les gens se sont repliés dans des villes fortifiées, dans des bastides, des villages fortifiés ou des fermes fortifiées, ont subsisté comme ils ont pu pendant 100 ans où il a fait nuit. Et donc des créatures monstrueuses, des malbestes, des créatures changées par la phosphorescence de la brèche, donc se sont répandues sur ce territoire du sud de la France. Et donc pendant 100 ans, il a fait noir, il a fait sombre. Et quand enfin la lumière du soleil a commencé à revenir, les gens se sont réappropriés ce territoire. Et mais ils ont dû combattre d'abord ces malbestes, les repousser, les chasser. Bon, maintenant il y en a encore qui de temps en temps passent les montagnes, mais il y en a de moins en moins. Et donc l'histoire commence. En fait, on l'a dit aux alentours du XIIe siècle, un jeune garçon qui s'appelle Louis vit dans un petit village perdu au fin fond du royaume d'Occitanie, parce que c'est le royaume d'Occitanie, juste devant les montagnes, et derrière les montagnes, en fait, chez lui, c'est pour ça que le premier tome s'appelle Le village au bout du monde, parce qu'en fait, il y a les montagnes, et derrière, on voit juste la phosphorescence de la brèche qui la nuit silhouette un petit peu les montagnes. Louis habite dans ce fin fond, dans ce bout du monde, de manière relativement insouciante, jusqu'au jour où une malbeste passe les montagnes et vient déchaîner sa fureur un peu sur le village, dévorer les troupeaux et attaquer les gens. Et Louis et son frère Séverin se font surprendre dans un champ, en plein champ, lors d'un orage, par la malbeste. Et alors qu'elle est sur le point de les dévorer, enfin de dévorer son frère, Louis, qui se sent impuissant face à cette créature monstrueuse, difforme, qui fait peut-être plus de 2 mètres au garrot, vous voyez, quelque chose d'énorme, une espèce de sanglier gigantesque, ne sait pas quoi faire. Et tout à coup, il sent une force qui monte en lui, un pouvoir qu'il ne se soupçonnait pas. Et il va se transformer en galou, en créature mi-homme, mi-loup. Il va sauter sur la malbeste, la terrasser, réussir à sauver son frère. Mais une fois la bête morte et son frère sauvé, il est terrifié par ce pouvoir qu'il sent en lui, cette part d'animalité qu'il se découvre. Il veut se débarrasser de ce pouvoir, mais quelqu'un lui dit ben non, tu ne pourras pas, c'est un héritage qui vient de ton père. Tu vas donc devoir apprendre à vivre avec cette bête intérieure, à cette part d'animalité qui est en toi. Et donc tu vas devoir apprendre à la domestiquer, à en faire un instrument de bien plutôt que de mal, t'accepter toi-même. Par contre, tu vas devoir partir car on t'avait caché à ta naissance, car tu es potentiellement le plus puissant des galoups qui existera jamais. L'usurpateur qui a pris le pouvoir du royaume, dans le royaume, va chercher à te retrouver, va chercher à s'emparer de toi. Donc tu vas devoir fuir du village. Donc il va partir du village avec son grand frère Séverin, avec une jeune fille de rencontre, un peu sorcière, un peu rouquine au caractère impossible, qui s'appelle la Roussotte. Donc évidemment, on a le début d'une belle histoire d'amour et qui est tout sauf un faire-valoir ou une potiche. C'est vraiment un personnage à part entière et avec un sacré caractère. Et donc en fait, c'est le galou, c'est un conte, on va dire, initiatique, toute une allégorie. Donc on peut y voir simplement une histoire de galou ou toute une allégorie sur la part d'animalité qui est en nous. Comment, pour moi, le galou, c'est un peu l'archétype de l'humanité, c'est-à-dire un pouvoir qui se réveille un peu en nous à l'adolescence, ce corps qui se modifie, dont on ne sait pas quoi faire, dont on se sent plus maître tout à coup, et qu'on doit apprendre à se réapproprier, à s'accepter pour pouvoir de nouveau s'ouvrir aux autres et à se réaliser soi-même.
Ça vous a demandé quelques recherches sur place ou pour l'architecture ou la configuration de certains lieux, savoir si la ville, il y avait 50 000 ou 10 000 habitants?
Oui, bien sûr. Je suis historien déjà de formation, j'ai été enseignant en histoire, donc voilà, j'avais déjà quelques notions. Et après, par contre, j'ai fait des recherches, effectivement. Alors d'abord, je connaissais des légendes, j'ai compilé toutes les légendes que je pouvais. J'ai lu énormément d'auteurs, par exemple, comme Claude Seignolle, qui est un auteur extraordinaire, qui a compilé depuis le début du siècle, où il a directement été cherché aux lèvres des gens dans les campagnes au début du siècle, ces histoires orales qui avaient tendance à disparaître. Il en a fait lui des nouvelles, il en a fait des recueils et puis aussi des nouvelles, il s'en est servi pour faire des nouvelles. Donc je me suis beaucoup servi de son œuvre, je me suis appuyé sur son œuvre. J'ai essayé de retrouver un ton de conteur à la veillée aussi dans cette histoire, une espèce d'oralité écrite, une langue comme si on s'asseyait au coin du feu et que quelqu'un vous racontait l'histoire. Et alors pour les recherches, oui, j'ai fait des recherches sur les villes, j'ai essayé d'extrapoler, de voir un petit peu comment l'habitat aurait pu évoluer, mais en restant par contre, ma formation d'historien fait que j'ai essayé de rester le plus possible, on va dire, réaliste au niveau de la vie de tous les jours telle qu'elle pouvait être au Moyen-Âge. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de princesse habillée en tulle vaporeux qui est assise au bord d'une grande fenêtre ouverte dans un donjon. Non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grande fenêtre dans les donjons, il faisait beaucoup trop froid pour ça. On préférait garder la chaleur comme on pouvait. Et par exemple, je ne sais pas, quand on pense au bois, quand j'essaye de décrire les bois ou les forêts dans l'histoire, c'est un lieu de peur, c'est un lieu d'angoisse. Voilà, c'est pas des forêts bien entretenues, c'est des ronciers, c'est le territoire des bêtes sauvages, des créatures fantastiques un peu. C'est là où on projetait toutes les peurs à l'époque. Donc, je sais pas, par exemple, j'ai essayé d'être aussi au niveau des distances, 30, je veux dire, à notre époque, 30 km à parcourir, c'est rien. À l'époque, il faut 2 journées. Si tant est en plus qu'il soit mis à pleuvoir et que ce soit l'hiver, ça peut prendre très longtemps. Donc voilà, j'ai essayé d'être assez rigoureux vis-à-vis de ça.
Quand les personnes venaient, en fait, de les voir, Mandaille, Aurillac, c'est vrai qu'il y a 2 jours de marche, mais 2 jours de marche, on va demander de galère. C'est pas une promenade de santé, quoi. Ça n'a rien à voir. Moi, c'est ça que j'aime bien, justement, aussi, c'est que cette forêt qui est vraiment hostile, on la ressent bien avec les pierres glissantes, les ruisseaux dans lesquels on peut aller se fracasser la tête et tout. Donc, d'un seul coup, on se dit, ah ouais, quand même, c'est pas drôle tous les jours. Alors, ils vivent dans leur petit village, reclus comme ça et tout, et puis ils labourent leur terre, et puis finalement, parfois, c'est même carrément la misère, et quand bah, ils ont toujours peur, cet aspect-là aussi, de manquer pour l'année prochaine, toutes ces choses-là, et c'est vachement intéressant ça. D'où la part de l'art, je disais justement le réalisme, et là aussi, on arrive facilement à se transposer dans l'univers, et ça c'est génial, avec la part de fantastique, qui toujours plane quoi, aussi. Quoi. Parce qu'il y a la Malbeste, il y a les Brécheux, qui sont ceux qui n'ont pas réussi à faire sortir le Louvoir complètement, qui ne savent pas vraiment qui ils sont, parce qu'il faut une âme forte pour être un galou, mais sinon on devient un Brécheux, et là, on a des hommes renards, des hommes belettes, des trucs un peu bizarroïdes comme ça qui apparaissent, et sont plutôt difformes et tout, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas dangereux, hein. Justement, c'est des créatures sauvages, et ça c'est pas mal. Il y en a un dans le 3, il faut bien la trouille. Hein.
Voilà. On va attendre le 3 pour le voir.
Mais c'est pas un roman super sombre quand même, c'est pas de la dark fantasy.
Non, 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 pas du tout. Non, en fait, moi je suis un peu anti-étiquette. Pour moi, il y a que deux sortes de littérature, toujours confondues, il y a la bonne et la mauvaise. Quand je lis un livre, je me pose jamais la question de savoir si c'est du fantastique ou pas du fantastique, ou de la dark fantasy, ou du voilà. Je trouve qu'à force de trop restreindre les étiquettes, d'abord ça restreint le lecteur, parce qu'après ça ils vont chercher, mais moi je veux lire que ça, alors que justement, moi je lis tout, ça va, donc je sais rien. De la fantasy bien sûr, de la SF aussi, mais je fais des incursions dans le polar, soit je sais pas, je peux lire du Elroy, je peux lire, j'adore la littérature classique, que ce soit Balzac, Hugo, etc. J'adore Céline au niveau de l'écriture, j'ai plein de maîtres à penser. Et je trouve que c'est dommage de se limiter dans un genre, de pas aller piocher un petit peu partout. Et non, par contre, c'est pas un récit qui est très très noir, c'est un récit qui, c'est un conte qui peut se lire, on va dire, à partir de 12 ans, si on veut. Même, bon, j'ai vu des petits lecteurs de 9 ans, mais j'étais quand même surpris. Je veux dire, de 12 ans, 10 ans si on est bon lecteur. Et après, il n'y a pas de limite haute, parce que, voilà, comme j'ai essayé de trouver un petit peu le ton des conteurs à la veillée, j'ai essayé d'y développer une langue simple, mais non simpliste. C'est-à-dire que ça m'oblige, au contraire, à faire des recherches, enfin, à rechercher au niveau de la phrase une musicalité, comme si, vraiment, si vous aviez un conteur à côté de vous. C'est un livre qui peut se lire pour soi-même, mais qui se lit aussi très bien à haute voix pour lire aux autres.
Qui nous ont dit vraiment avoir lu le livre et d'avoir la sensation d'entendre le conteur. Même moi d'ailleurs quand je le lisais, j'avais vraiment, non, on entendrait presque le feu en train de crépiter dans l'âtre, quoi. C'est ça qui est rigolo. Là, cette sensation de ce personnage là qui est là en train de vous raconter l'histoire, parce que c'est vraiment haut en couleur au niveau du, même le vocabulaire. C'est ce que j'apprécie par exemple, et c'est vrai que c'est ce qui est un petit peu dommage, c'est que l'heroic fantasy qu'on a, c'est une heroic fantasy américaine. Alors elle est très bien, ou anglaise. Le problème, c'est que c'est traduit. Et donc, on n'a pas, même si tant soit peu qu'un traducteur soit vraiment très très bon, il ne pourra jamais vous retranscrire le livre tel qu'il a été écrit dans sa langue d'origine. Là, on a un auteur qui écrit, et qui écrit très très bien, et qui maîtrise parfaitement la langue française. Et là, on se retrouve, et pas simplement sujet-verbe-complément, c'est-à-dire qu'il sait vraiment mettre les bons termes avec, et les associer pour vraiment vous donner vraiment une explosion d'images, de saveurs, même de bruits et tout ça. Et ça fait vraiment du bien au lecteur, parce que d'un seul coup, on est vraiment transporté. Et on n'est pas simplement, on n'est pas juste en train de lire un livre, parfois où on va se dire, ah bah il y a un temps mort là, ou bon bah d'accord, je vais sauter cette page parce que ça me saoule. Non, là vraiment, on est complètement pris du début jusqu'à la fin par la main, et on est embarqué très très loin, quoi, dans ce pays incroyable.
5 tomes, 2 parus, le rythme de parution, ils sont tous écrits déjà ou...
Les 5 tomes sont tous écrits, ils devraient paraître normalement un rythme de parution à peu près un tous les 6 mois. Donc le deuxième est paru il y a, c'est quoi, à peu près un mois maintenant. Et donc le troisième devrait paraître dans l'hiver, soit fin d'année, soit début d'année prochaine. Et les autres devraient s'enchaîner.
Donc éditeur Nouvel Angle, qu'on retrouve partout.
Oui, il est diffusé partout, dans toutes les Fnac, Virgin, etc. Toutes les bonnes librairies, dirais-je, sans vouloir être méchant pour ceux qui n'ont pas encore commandé le livre. Je signale aussi que j'ai une autre série de fantasy, qui est publiée aux éditions Mnemos et qui s'appelle Francia, dont le troisième et dernier tome paraîtra là en début juillet. Donc là, qui est une autre histoire différente. Alors là, c'est une autre histoire. Ça se déroule dans une France parallèle, une francophone qui s'appelle Francia, et où là, par contre, il existe des nains, des orques, de la magie, une certaine magie. Mais en fait, ils ont appris à l'utiliser. Ils s'en servent comme d'une science. Et donc, en fait, ils ont créé, par exemple, des tracteurs qui vont fonctionner avec des élémentaires de feu pour faire chauffer l'eau, des centrales électriques qui fonctionneront avec des élémentaires de foudre. Ils arrivent à modifier la réalité grâce à ce qu'ils appellent des protocoles technomanciens, c'est-à-dire une magie très codifiée, où on modifie l'harmonique de l'univers. Et donc, dans cet univers-là, on en arrive au moment de leur Seconde Guerre mondiale. Et donc, dans ce monde, les elfes sont persécutés, poursuivis, exterminés par les Teutoniens, qui sont les nazis de cette époque. Et les orques, eux, sont un peu les Africains de cet univers qui ont été colonisés par les Francains, qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale dans les tranchées, et qui sont considérés un peu comme une main d'œuvre, un petit peu, quand on regarde de haut, on les craint et en même temps on les considère un petit peu de haut. Et le héros, donc, est un jeune Francien qui, au début de l'histoire, vit en zone libre, a été élevé par un ancien chef de tribu orque qui s'est battu pendant la première guerre mondiale de Francia, et donc avec son frère adoptif, qui est un orc de 2m10 de haut, mais qui est le plus calme des deux, au contraire, qui est toujours en train de temporiser. Et au début de l'histoire, il travaille tout simplement dans un champ, et il y a deux automotrices, des espèces de voitures à vapeur qui arrivent, une poursuit l'autre, elle tire sur la première bascule dans un champ, et il y a un homme qui essaye de s'enfuir, il est rattrapé par des miliciens, qui l'interrogent, qui commencent à le tabasser, à l'interroger, pour savoir voilà où elle est, qu'est-ce que tu en as fait, donc visiblement on comprend qu'il cherche quelqu'un, et le soir, alors que les deux héros rentrent chez eux, en fait, le père du héros lui demande d'aller chercher du bois dans la resserre d'à côté. Donc le héros fait ce que dit son père. Et dans la resserre, il est attaqué par quelque chose qu'il ne voit pas, quelqu'un qu'il ne voit pas. Il se défend et quand enfin il réussit à se débarrasser de son agresseur, il se rend compte que c'est une jeune elfe qu'il vient d'assommer, qui avait l'air d'être aux abois, qui a l'air d'être blessée. Et alors qu'on leur décrivait comme des créatures pernicieuses, des créatures qui veulent, on va dire, pervertir la jeunesse de Francia, il est fasciné par les différences qu'il voit en elle. Il est fasciné par ce personnage, il n'entend pas éperdument amoureux tout de suite, mais enfin presque, on va dire. Et il veut l'aider, il veut lui porter secours, et en lui portant secours, il va basculer dans, on va dire, dans le conflit qui ensanglante cet univers-là. Donc en fait, ça me permet de revenir sur la Seconde Guerre mondiale, mais par le biais du fantastique, et donc d'aller peut-être de parler de manière très sincère du fond, finalement, de la guerre, de ce qu'ont ressenti les gens, de la manière dont ils ont pu la vivre au niveau des personnes, plus que des événements, on va dire, au niveau des dates, etc.
Un gros morceau. Merci. Ça a l'air chargé. En plus, vous nous avez montré les illustrations qui sont magnifiques. Enfin, un univers pesant et prenant.
Merci. Oui, tout à fait. C'est une histoire où il y a beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions et aussi des passages qui sont terribles parce que on est quand même dans un équivalent de la Seconde Guerre mondiale avec tout ce que ça peut comprendre, de passages très très durs. Donc là, ça s'adresse à un lectorat qui est plus âgé, on va dire, à partir de 16-17 ans et adulte. D'autant plus que les rapports entre personnages sont des rapports adultes aussi. Donc voilà, mais c'est une histoire qui est, on va dire, j'espère, qui est poignante, qui justement, comme moi j'ai été, je disais, enseignant d'histoire, j'en avais assez de raconter aux gens la Seconde Guerre mondiale par les chiffres, car je me rends compte que finalement, des gens se représentent les chiffres, ça veut rien dire pour eux, ça ne leur parle pas. Et là je me disais, peut-être qu'à travers le biais du fantastique, je vais réussir à reparler de cette période dont les gens, des fois, ils veulent plus en entendre parler parce qu'on en a peut-être mal parlé et que justement, il ne faut pas oublier. Je pense qu'il est important de se souvenir de ce qui s'est passé. Et donc, dans ce cas-là, en suscitant une réponse émotionnelle, en leur faisant partager peut-être, même à travers le rêve, ce qu'ont pu vivre les gens à cette époque-là, et les déchirements qu'il peut y avoir, etc., de les faire revenir à s'intéresser à cette période et se dire, voilà, il y a des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie pour pas que ça recommence.
Juste pour revenir sur Louis Le Gallou, vous avez un petit ordinateur qui tourne avec une bande-annonce. Des idées d'animation ou pas? Ou c'est juste une bande-annonce comme ça, parce qu'il y a des images qui bougent un petit peu?
Alors en fait, la petite bande-annonce a été faite parce que c'est vrai que j'avais fait les illustrations, et comme je viens du dessin animé, forcément, quand on fait des illustrations d'un seul coup, c'est pas mal en même temps. J'ai toujours envie que ça se mette à bouger. Un jour, au moment où on est en train de faire le site internet, je me dis, tant qu'à faire, vu que je sais faire du dessin animé, que je sais faire du compositing dans le dessin animé, je vais voir ce que ça donnerait. Alors j'ai fait le premier plan avec le château de Marfond et tout, vous voyez, un peu genre plan à la Disney, on sort de la forêt et tout, on voit le château de Marfond. Donc je me dis, tiens, ça a l'air plutôt pas mal, j'ai même été assez content. Alors j'ai commencé à faire la bande-annonce. Une idée de dessin animé, une idée de film, forcément, on en rêve tous, hein, quand on sort un livre, et surtout quand c'est des heroic fantasy, on se dit, ce serait super. Mais on a bien les pieds sur terre, on se dit d'abord, il faut vraiment que le livre soit le maximum connu, qu'on puisse faire vraiment partager cette passion, que ça puisse vraiment toucher les personnes, avant que ça soit une idée commerciale et vraiment une idée vraiment de faire quelque chose d'incroyable. C'est vrai que forcément on aimerait bien, parce que c'est aussi un petit peu on fait des illustrations, mais on met en place un univers. Donc le plus beau, ça serait évidemment d'avoir un film en long métrage ou même un dessin animé super bien fait, tout et tout. Bon, après, voilà quoi, c'est une question de temps, et ça coûte très cher aussi faire du dessin animé, même un film aussi, surtout quand c'est des trucs avec des effets spéciaux. Ça se passe pas dans une pièce avec trois acteurs, quoi, c'est pas un huis clos. Donc oui, forcément, ouais, mais ça reste une idée qui est pas hors d'atteinte, mais on a des objectifs avant à réaliser, avant de vouloir se dire, voilà, on va essayer de décrocher la lune. Donc, voilà.
Quelque chose à rajouter, peut-être une impression justement, on est dimanche sur Japan Expo, donc c'est bientôt la fin du salon.
Franchement, super. C'est-à-dire, nous, quand on est en salon, quand on est en dédicace, quand on est en salon, déjà on adore. Et puis là, sur le Japan Expo, c'est vrai qu'on rencontre vraiment pas mal de gens qui, finalement, on est content parce que c'est vrai qu'on adore la Japanime, Jean-Luc et moi. Et en même temps, on est content parce qu'on voit aussi que les gens qui aiment la Japanime aiment toujours aussi les livres et tout ça et tout. Donc, n'avait pas un a priori, mais on s'est dit faut espérer quand même que ça puisse être toucher aussi le public aussi avec le roman, parce que c'est vrai que c'est pas un manga, hein. Donc mais en même temps c'est bien parce qu'il y a une bonne relation qui se crée, et ça c'est super. On est toujours content quand on se trouve dans un salon, parce que On rencontre les gens, on parle de notre passion et forcément ça les touche et puis ils sont embarqués après avec nous dans l'histoire. Puis on est content aussi parce qu'on retrouve aussi des personnes qu'on avait dans d'autres salons. Donc comme celui par exemple de Troll et Fantasy à Mons, et ben qui viennent et qui disent ah bah tiens vous êtes là, super, on va pouvoir faire dédicacer le 2, donc bah super, donc voilà quoi. Donc il y a toujours cette puis on crée forcément un lien avec les personnes, ça c'est ça qui est agréable.
Oui, puisqu'on est là dans la section Comic-Con de Japan Expo, donc qui est réservée, qui est dédiée à tout ce qui est imaginaire. Il y a les salons de jeux de rôle, les grandeurs nature, plein de momies, de monstres à côté. Vous êtes effectivement en plein dans votre univers.
Là, c'est sûr qu'on est on est bien placé. C'est sûr qu'on voilà, on n'est pas à côté du stand Sega ou ou de la Wii. C'est quand même mieux. Mais en même temps, voilà quoi, c'est vrai qu'on est. Il y a vraiment une super ambiance. Ça, c'est chouette quand même de rencontrer les personnes. Et puis, c'est toujours agréable en même temps de se retrouver dans un lieu où, d'un seul coup, les gens sont beaucoup plus détendus. C'est une ambiance festive. Donc, nous aussi, on est toujours en fait, hein, on est content quand on est en dédicace parce que on parle vraiment du bouquin avec, c'est toujours agréable, quoi. Et donc, on touche forcément beaucoup plus de les gens sont plus ouverts peut-être aussi quand on est dans une ambiance de fête pour être vraiment emmenés avec nous dans cet univers-là et qu'on puisse vraiment leur faire découvrir. Moi, je peux prendre le temps de dessiner, de discuter aussi de ça et tout. Voilà, quoi, c'est très agréable.
Pour finir, les impressions sur la section Comic-Con de Japan Expo.
Moi, je trouve ça très sympa. Et puis, bon, c'est la première fois que je suis à Japan Expo, j'en avais entendu parler. Je trouve ça très agréable, justement, les gens qui se déguisent et tout ça. Je trouve qu'il y a une ambiance très, très bon enfant. Bon, à la limite, on en viendrait presque à se dire, finalement, c'est dommage que les gens s'habillent pas comme ils veulent à longueur d'année. Ce serait moins triste que les costards cravates. Et beaucoup plus charmant, souvent. Non, c'est une manifestation très sympa. Il y a une très bonne ambiance. Les gens sont très agréables. Voilà, c'est un peu de fantaisie et un peu de rêve. Voilà, c'est la fête, c'est le carnaval. C'est très sympa.
Merci beaucoup.
Je vous en prie, merci à vous.